We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
L'affaire Nolibé, le calvaire d'un père, épisode 2.
Ce que je ne comprends, j'ai jamais compris qu'on inculpe quelqu'un comme ça, sans preuve, sans rien. Ils n'ont pas trouvé l'arme du crime. Il en fallait un. On a pris le père.
Claude Nolibé, que l'on entend, a perdu sa fille Caroline, 18 ans, assassinée le 31 juillet 1991, devant chez eux, dans le village de Clairac. Retrouvée agonisante par son père, Claude, Caroline s'est éteinte dans ses bras. Autour de la scène de crime, aucun indice, aucune arme, aucun témoin. La jeune fille a été tuée violemment et très rapidement. A-t-elle été victime d'un rôdeur, d'une vengeance personnelle ? Interrogé par la brigade de Clairac en tant que témoin, Claude Nolibé se perd dans ses explications, il se contredit. Il est dans la ligne de mire des enquêteurs. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Dans la commune de Clairac, c'est l'émoi. Un meurtre ici, c'est incompréhensible. Clairac est un village tranquille, rythmé pour beaucoup par le travail à l'usine et le chant des cigales. Pas d'agitation, ni de querelle. Un lieu de vie agréable et sans problème. Alors pourquoi ? Pourquoi une jeune fille du coin, apparemment sans histoire, a-t-elle été assassinée ? L'enquête sur le meurtre de Caroline Nolibé est confiée au procureur de Marmande, Claude Gour. Le lendemain des faits, l'homme déploie une armada d'enquêteurs sur les lieux pour récolter un maximum d'indices. Une équipe de plongeurs d'Arcachon, une dizaine d'hommes grenouilles, sondent le Lot et le puits du jardin Nolibé. Ils cherchent l'arme du crime, un couteau effilé. Mais ils ne trouvent rien. Le tueur n'a laissé aucune trace derrière lui, rien dans le jardin, ni dans la cour, ni dans le caniveau, ni même sur les berges du Lot. La maison de Claude est perquisitionnée. Les enquêteurs fouillent de fond en comble le domicile. Impuissant, le père de famille regarde les gendarmes retourner les placards de sa fille. Deux opinels et un couteau suisse sont saisis dans la chambre du père, des vêtements de Caroline tachés et ceux que Claude portait le soir du drame également tachés de sang sont envoyés dans un laboratoire d'analyse pour être expertisés. À l'extérieur, un mégot et un paquet de cigarettes vides rejoignent le peu de scellés. Le procureur de Marmande n'a pas grand-chose. Peu importe, il s'est déjà forgé son intime conviction, Claude Nolibé est le coupable. 5 jours après le décès de Caroline, son corps est enfin autopsié. La violence du coup de couteau qu'elle a reçu dans le cœur indique que l'agresseur était déterminé, sans doute dans une grande colère. Il aurait frappé Caroline au visage également, avant de l'achever à l'arme blanche. Aucune blessure de défense n'est observée. On peut donc conclure que soit l'attaque a été vraiment surprenante, soit Caroline connaissait son agresseur et ne s'en est pas méfiée. À Clairac, l'atmosphère est pesante. Au marché, les journalistes, de plus en plus nombreux, se frayent à chemin entre les étals pour tenter d'obtenir des informations. Les villageois se regroupent, se questionnent, lancent des hypothèses. C'est dans ce contexte qu'ont lieu les obsèques. Une semaine après le décès de Caroline, tout le village est là pour lui rendre un dernier hommage. Tout le village, et les gendarmes. Le meurtrier est sûrement dans la foule. Les gens s'épient, mais les habitants de Clairac et les enquêteurs ont surtout les yeux rivés sur un homme, le père. les mains sur le cercueil de sa fille, le regard dans le vide, sans expression, Claude essaye comme il peut de faire face, malgré les soupçons qui pèsent sur lui. L'heure est au recueillement pour toute la famille de Caroline. Mais qui était cette jeune fille ? Caroline Nolibé était une jeune femme brune, franche bouclée, au-dessus de ses yeux en amande, légèrement maquillée. C'était une ado de son temps qui aimait sortir avec sa bande d'amis du quartier. Elle a quitté l'école à 16 ans pour aller travailler à l'usine, comme ses parents. Caroline est la dernière de la famille. Elle a dû jouer des coudes avec ses frères pour se faire entendre. Mais elle n'était pas du genre à se laisser faire. Caroline avait un sacré caractère. Quand ses parents se séparent en 1989, la jeune fille fait le choix de rester vivre chez son père. Non pas parce qu'elle ne s'entend pas avec sa mère, elle la voit tous les jours, mais parce que cette option lui offre beaucoup plus de liberté. En restant vivre chez son père, elle n'a plus d'obligation. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Leur cohabitation se passe à merveille. Chacun y trouve son compte. Caroline est libre et Claude bénéficie d'une vraie petite fée du logis à la maison. Ménage, courses, repas, tout est géré par la jeune fille. En réalité, Claude n'avait pas beaucoup d'autorité sur sa fille. Elle vivait comme elle l'entendait, retrouvait ses amis le soir, sortait parfois le dimanche en boîte, sans jamais prévenir son père. Claude a très mal vécu le divorce avec sa femme. Après 20 ans de mariage, Christiane, c'était vraiment la femme de sa vie. Son départ a laissé un grand vide dans le quotidien du quinquagénaire. Sans Caroline, Claude aurait sombré, il se serait laissé aller. Caroline, joyeuse, généreuse, serviable et spontanée, le maintenait dans la vie. En tous les cas, dans le village, la rumeur enfle. Au café, on raconte que Caroline était une jeune fille volage, peu recommandable. Elle fréquentait des dealers et des prostituées, elle-même se prostituait. C'était une petite dévergondée, et cette rumeur se répand comme une traînée de poudre. Tout est déformé, tout est amplifié. Claude adorait sa fille ? C'est sûr, ils entretenaient une relation incestueuse. Caroline n'avait pas de petite amie ? Normal, elle avait la cuisse légère et se faisait même payer pour. Claude était jaloux, sa jalousie l'amenait à la folie, il a tué sa fille. Voilà, des on-dit gonflés par les investigations des gendarmes, qui ne tendent que vers un seul homme, comme d'habitude, Claude Nolibé. À Clairac, l'homme est devenu un paria. On l'évite, on ne lui adresse plus la parole, on lui tourne le dos. En moins de 2 semaines, sa vie s'écroule. Il a perdu sa fille qu'il aimait tant, et aux yeux de tous, même de ses proches, il est le coupable. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après.
We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Le 12 août 1991, un mois après la mort de Caroline, le procureur de Marmande ordonne l'arrestation de Claude Nolibé. L'homme accusé ne résiste pas, sonné, il accepte son sort et suit les gendarmes. Claude est placé en garde à vue à la brigade de Clairac. À partir de maintenant, il a 48 heures pour s'expliquer clairement. Les enquêteurs veulent le coincer, le mettre face à ses contradictions, le faire craquer. Claude Nolibé est un homme simple, honnête, et jusqu'à présent, il n'a jamais eu affaire à la justice. Contre lui, les gendarmes n'ont rien, des soupçons, mais aucune preuve. Pourtant, ils le traitent sans ménagement. Le traitement de Claude Nolibé en garde à vue est terrible. Il se tient debout, torse nu, dans la salle d'interrogatoire. Au sol, les gendarmes tracent un cercle à la craie autour de lui. Il a désarmé l'interdiction de sortir de ce cercle. Les heures défilent. Dans la pièce, en plein mois d'août, la chaleur est écrasante. Pour France 3, Claude Nolibé lui-même raconte.
Et là, je ne pouvais plus parler. Je demande un verre d'eau. Ce verre d'eau, ils me le mettent au bout de la table. Je veux prendre ce verre d'eau. Il me dit non, tu prendras ce verre d'eau quand tu auras avoué. Après, le commandant Sasso, il m'appelle à part, dans une pièce, il me dit, tu viens là. Il me dit, tiens, tu prends ce stylo, tu signes là, comme quoi, tu n'as pas fait exprès. Il me dit, tu feras un an et demi de prison.
Mais Claude ne lâche rien. Il ne change aucune de ses déclarations. Mais il n'est pas clair en même temps. Ses réponses ne sont pas cohérentes. Il a du mal à garder sa concentration. Ses explications sont confuses. Quand les gendarmes lui demandent s'il avait des relations sexuelles avec sa fille, il répond simplement
« Caroline avait assez de copains pour ne pas avoir besoin de coucher avec moi. »
Était-il attiré par sa fille ?
« Je n'ai jamais ressenti d'attirance envers ma fille. Pour sa part, je n'en sais rien, si ce n'est qu'elle était gentille avec moi. »
Claude est exténué. Il ne comprend pas ce qu'il fait là, mais il ne se révolte pas. Il subit docilement. Une attitude qui ne fait que renforcer la conviction des enquêteurs. Ils en sont sûrs. L'assassin, c'est lui, devant eux. Après 48 heures de garde à vue, la juge d'instruction de Marmande demande le placement de Claude Nolibé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Agen. Le père de la victime encaisse sans broncher et passe sa première nuit derrière les barreaux. Cinq jours après avoir été mis en examen, Claude décide enfin de prendre un avocat. Ce sera maître Michel Gonel. Au parloir, Claude est extrêmement calme. À quoi bon se révolter ? Il est innocent, il fait confiance aux enquêteurs. La police va bien finir par trouver le vrai coupable. S'il faut en passer par là pour comprendre pourquoi sa fille a été tuée, eh bien il est prêt à tout. Tandis qu'il croupit en prison, le rapport d'un policier de la scientifique arrive dans le bureau des enquêteurs et il est accablant. L'expert est clair. La position dans laquelle Caroline a été retrouvée par les gendarmes ne correspond pas au dire de Claude. Claude s'est penché sur sa fille et son pantalon a été imprégné de sang, mais d'autres traces ont été retrouvées, des giclures qui restent inexpliquées. Selon l'expert, cette tache atteste que le père était présent au moment du meurtre. Les traces de sang retrouvées sur le volet maintenant. Claude affirme les avoir faites lui-même. Mais pour l'expert, elles ont été faites par une surface lisse, sans doute la veste en cuir de Caroline. La jeune fille a eu le temps d'atteindre le volet avant de mourir. Elle était donc arrivée jusqu'à chez elle avant de recevoir un coup de couteau. Un mois après l'incarcération de Claude, la juge d'instruction décide d'organiser une reconstitution des faits. Le 16 septembre 1991, Claude Nolibé est escorté vers sa maison. Il sort du fourgon, les mains menottées, serrées dans le dos, entouré par les gendarmes. La reconstitution commence dans les mêmes circonstances que le soir du meurtre, la nuit tombée. Claude peine à refaire les gestes, mais il obéit à chaque demande de la juge. Il n'est pas à l'aise et comme pendant sa garde à vue, il encaisse péniblement. La mise en scène dure 7 heures. C'est extrêmement long pour une reconstitution. Et bien sûr, Claude est à bout. Et vient le moment tant attendu. Le père de famille doit se pencher sur le corps de sa fille, incarné par une jeune gendarme recouverte de sauce tomate. Et oui, c'est comme ça les reconstitutions. La juge lui demande de refaire exactement les mêmes gestes que le soir du meurtre. Elle espère que ce moment le fera avouer. Claude craque, enfin. En pleurs, il hurle.
« Non, je n'y toucherai pas. J'ai pas tué Caroline. Je suis pas coupable. »
La reconstitution s'arrête là. Il est 2h du matin. Dès le lendemain, l'avocat de Claude dépose une demande de libération, acceptée par la juge. Nolibé est libéré de prison le 27 septembre. Sans aucune preuve contre lui, sur la simple conviction d'un procureur, il a passé 45 jours en détention provisoire. Libre, mais toujours mis en examen pour le meurtre de sa fille. 4 jours après sa libération, une 3e perquisition de sa maison est ordonnée. La justice semble s'acharner. Mais on ne trouve rien de plus que les fois précédentes. À ce stade, mis à part son avocat, personne ne veut croire en sa version des faits. Il est libre, oui, mais une nouvelle bataille commence. Il va maintenant devoir se battre pour son honneur et pour que la vérité éclate. C'est le début d'un véritable chemin de croix qui va durer plus de 10 ans. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.